Vous écoutez
RMC.
RMC. L'Afterfoot.
Gilbert Bribois.
Avec ce soir Daniel Riolo et avec Jérôme Rotten. Tout à l'heure Nicolas Villas nous rejoindra. Et ouais, il est toujours là le père Villas. Il va nous parler du Portugal, de Cristiano Cabrier et Julien Laurence qui lui va nous raconter comment l'Angleterre a battu le Kosovo. D'ailleurs, on entendra le sélectionneur du Kosovo. Un drôle de numéro, vous verrez tout à l'heure.
Ah ouais.
Un mec assez étonnant, qu'on connaît par ailleurs, mais enfin vous verrez tout à l'heure. Avant d'accueillir Hamid, une question. Est-ce qu'on fait encore tirer les pénaltys à Griezmann?
De suite, c'est assez rare quand même.
Écoute, il les tire bien. D'habitude, il tire bien.
Il est toujours bien. Bah, ça lui arrive de rater dans des matchs importants.
Ouais, mais sauf bon. Que là, il avait trouvé un petit truc. Il l'avait dit, hein, même à la Coupe du Monde, j'ai l'œil et tout ça sur le gardien, sur le dernier pas et tout. Et là, autant ouais, les deux sont différents, mais là il se précipite et tu sens qu'il
Là il le tire mal. Il le tire pour un mec qui a sa technique à mi-hauteur sur un côté comme ça, c'est super mal tiré.
Mais c'est surtout que le Daniel, c'est même pas ça. C'est que le gardien il part largement avant. Donc s'il jette un coup d'œil,
ouais. Avant, il lui glisse de l'autre. Tu sais, il le tirait, on va dire un peu façon Neymar, c'est-à-dire pas fort, mais
attendez,
avec le coup d'œil.
On a une archive. Rappelez-vous, avant la Coupe du Monde. On parlait des pénaltys avec Griezmann, il avait dit ça, rappelez-vous.
Je peux pas dire mon petit truc quand même.
Ouais.
Au cas où, je pense que j'ai trouvé le petit truc pour les mettre.
Voilà, mais c'est ce que je viens de te dire.
Sauf qu'il l'a perdu alors.
Non, mais moi, le petit truc, c'est. Je les ai tirés les pénaltys et c'est vrai que tu essayes de trouver c'est sur ton dernier pas d'élan quand tu poses ton pied d'appui, c'est toujours essayer d'avoir le regard sur le gardien, voir s'il te donne une indication. En général, les gardiens, ils anticipent parce que s'ils partent à la frappe, ils sont en retard. Si tu frappes fort d'un côté, c'est mort. Ils peuvent pas l'avoir. Donc, ils anticipent. Et c'est vrai tu regardes, il prenait tous les gardiens à contre-pied parce qu'il avait ce petit truc. Et là, autant il l'a raté samedi, okay. Mais là il a même pas regardé. En fait, il était sûr de lui. Il s'est dit je frappe fort d'un côté.
Il a voulu frapper fort sur le côté.
Et il a même pas regardé les indications du gardien parce que le gardien vraiment déjà il est pas resté. Alors là le règlement là, soi-disant les deux pieds sur la ligne.
Bon, on a pas
du moins un pied sur la ligne. Non mais t'as vu où il est. Il est quasiment un mètre devant. Non mais il est quasiment un mètre devant et il anticipe. Ah voilà, bah après il a raté.
Les gardiens, on va leur dire, vous laissez les mains dans les poches, quoi. Vraiment...
Mais bon, heureusement qu'il doit continuer à les tirer. Tu vas les faire tirer à qui sinon?
Bah Giroud, par exemple.
Ça va, Giroud, il va pas jouer tous les matchs.
Là, il l'aurait bien tiré. T'as bien vu là, il a un petit regard comme ça, genre en mode.
Griezmann, il les a bien tirés. Il gère la pression. Voilà, c'est pas grave.
C'est délicat quand t'as un tireur qui a toujours été bien et. C'est vrai que c'est rare de rater deux fois de suite. Ouais. Mais d'un coup, tu vas lui dire, bon écoute, Coco, t'en as raté deux de suite, tu tires plus. Non. C'est le leader de cette équipe, c'est le leader offensif, le leader technique, même si c'est pas le meilleur ce soir, qu'il avait fait un très bon match contre l'Albanie sans être le meilleur joueur, mais il n'empêche que c'est lui le taulier de cette équipe d'un point de vue technique. Bah, tu le fais tirer, évidemment.
Allez, Hamid est avec nous au 32-16. Hamid, bonsoir.
Oui, salut Gilbert, salut Daniel, salut Jérôme.
Salut Hamid.
Salut Hamid, ça va?
Ouais. Ouais, ça va, merci. J'étais intervenu, si tu te rappelles, Gilbert, j'avais parlé de la Copa América et de la Coupe d'Afrique des Nations, que le fait que c'était tous les deux ans, c'était beaucoup trop médiocre, tu te rappelles?
Ah oui, c'était au mois de juin, ça.
Oui, voilà, j'avais encensé Daniel Riolo, d'ailleurs, je suis très content de l'avoir. Salut, Daniel.
C'est gentil, salut.
Oui, alors moi, je voulais juste revenir sur une chose, donc le jeu de l'équipe de France. Mm-hmm. Le jeu de l'équipe de France. Il y a une chose qu'on oublie de dire, c'est que rappelons-nous le premier match de la Coupe du Monde 2018. Didier Deschamps, il tente un jeu offensif en 4-3-3 avec Kanté, Pogba, Tolisso, Dembélé, Griezmann, Mbappé. Donc c'est un peu style Barça, style possession de balle, vers l'avant, etc. Rappelez-vous bien, contre l'Australie.
Ouais.
Ça ne marche pas, c'est une catastrophe.
Adversaire faible, en plus, faut le préciser.
Ouais, exactement, en plus, exactement là. Adversaire faible. Tu le dis bien, Daniel Riolo. Adversaire faible. Donc il a tenté, ça n'a pas fonctionné, c'était pourri. Tout le monde était persuadé qu'on ne pouvait pas gagner la Coupe du Monde avec ce jeu. Lui, Didier Deschamps, c'est comme ça qu'il voit les choses. À chaque fois qu'il essaye un jeu offensif, ça ne marche pas. Tout de suite, il revient à ce qu'il était en tant que footballeur et la vision du football qu'il a. C'est-à-dire, on gagne, on bétonne, bloc bas, contre-attaque. Et il avait eu la grande chance d'avoir Mbappé. Donc, vous avez vu qu'après, il a totalement changé. Il a mis Matuidi à gauche, chose que moi aussi, ça ne me plaît pas. Donc, c'est ça le problème, en fait. C'est que lui, c'est quelqu'un qui va tester une formation qui va lui donner des résultats. Il va pas tester pour se dire, tiens, je vais faire du beau jeu, j'aime ça, je vais faire des passes, je vais garder le ballon. Mmh. Il va peut-être le faire. Peut-être, je dis bien, peut-être il va le faire à l'Euro 2020, peut-être le premier match, et si encore une fois il voit que ça marche pas, il reviendra comme avant. Donc moi, je pense que...
Si ça lui réussit et si ça marche comme ça, les adversaires risquent d'être... De toute façon, dans un Euro, globalement... Bon, encore que à l'Euro 2016, t'as eu quand même un groupe avec deux équipes faibles. Hein. Et encore, quelle était la forte ? Albanie, Roumanie, il y avait une équipe forte ?
En Roumanie, était censé être au-dessus de l'Albanie quand même.
Ouais. Et c'était qui la troisième ? Il y avait qui comme adversaire dans le groupe ?
Je sais plus.
Albanie, Roumanie, sûr. Bon, bref.
Rappel, Daniel, tu vois quand tu parles de l'Euro ?
J'étais en train de dire que...
Rappelle-toi contre l'Albanie, il met Martial, il met Coman. C'était un match pourri.
Après, je crois que la qualité. Si tu regardes l'équipe à ce moment-là, je crois que la qualité des joueurs a augmenté. T'as des mecs qui ont mûri, t'as des mecs qui sont un peu plus installés dans les gros clubs. Le groupe a forcément gagné en confiance parce qu'un titre de champion du monde, ça marque une époque, ça marque un.
C'est la Suisse, la dernière équipe.
Ah oui, ça marque. Putain, j'avais complètement oublié.
Ouais, moi aussi.
Ça marque le blason dans le sens où quand les mecs sont réunis dans le groupe France, qu'ils arrivent au château, qu'ils sont dans ce groupe, ils disent je suis dans un groupe fort.
Vrai,
donc ça change la mentalité. Ça, il peut s'en servir pour tenter autre chose. D'abord parce qu'il a des joueurs plus forts, je le répète, et parce qu'il y a la confiance. Après, comme tu dis. Oui, si ça colle pas, et je cherchais les noms du groupe des équipes dans le groupe à l'Euro, parce que généralement à l'Euro les groupes sont quand même plus compliqués qu'à la Coupe du Monde. Bon, exception 2016.
Albanie,
mais normalement c'est un peu plus costaud. Donc effectivement, si après le premier match ça marche pas bien ou il sent que avec quatre mecs devant voilà. ça défend moins bien, ouais, il reviendra à quelque chose de plus pragmatique. Mais après tout, c'est sa marque de fabrique. Hein,
Vas-y.
Non.
Vas-y, Jérôme.
En fait, moi, ça me fait rire ce débat sur Didier. Encore une fois, je veux pas faire l'avocat de Didier, mais n'importe quel entraîneur, quand tu dois jouer trois matchs pour te qualifier, le but c'est quand même de se qualifier, de sortir à l'Euro du groupe. Le premier match, comme tu l'as dit, avec une équipe offensive, ça donne pas satisfaction. À la Coupe du Monde, la même chose contre l'Australie. Et ben c'est tout à fait normal qu'ils tentent des choses différentes et qu'ils se disent bon bah écoute
pas forcément.
Pourquoi
voulu, parce que ça serait un entraîneur qui a l'ADN du jeu, il peut continuer comme ça et jusqu'au bout comme Guardiola, c'est un jusqu'au boutiste.
Bah non,
même
mais Guardiola
il reste, il tente.
Non mais d'accord,
il veut jouer comme ça, pas autrement.
Ouais, mais Guardiola en sélection, j'attends de voir. Sélectionneur, t'es pas entraîneur,
d'accord.
Quoi, tu les as pas tous les jours, même si Didier, ça fait un bout de temps qu'il y est, il les connaît par cœur. Et là je rejoins Daniel sur le fait que tous les joueurs, alors cette Coupe du Monde ça te donne encore plus de confiance, mais tous les joueurs sont arrivés à maturité aujourd'hui, ils s'éclatent dans les plus grands clubs en Europe, c'est des valeurs sûres dans ces clubs là donc ça te donne une confiance que quand tu mets le maillot de l'équipe de France, naturellement tu deviens meilleur et plus régulier. Donc ça va, je pense, aller dans le sens que s'il décide, et j'espère, de revenir à des choix un peu plus offensifs, comme on a pu voir sur ces deux matchs, même si c'est deux adversaires très faibles, je pense que ça lui donnera satisfaction. Et si ça lui donne satisfaction, il reviendra pas à une tactique plus défensive, parce que lui, ce qu'il voit, et c'est pour ça, même si on pense que c'est l'ADN d'un jeu défensif et tout ça, Didier Deschamps, moi je l'ai connu, alors oui, Daniel va me dire, c'est à une certaine époque à Monaco, et peut-être, mais on lui donnait satisfaction. C'était un jeu très offensif. Par contre, c'est sûr, et ça il l'aura toute sa vie, mais c'est pas le seul entraîneur qui est comme ça, c'est que quand t'as pas le ballon, l'équilibre est très important. Et si Coman, Mbappé par exemple, si c'est les joueurs de côté, j'imagine, avec deux milieux de terrain, ils font les efforts comme ils doivent faire, comme des milieux excentrés, il n'y a pas de raison qu'ils reviennent avec des Matuidi ou Sissoko côté gauche et côté droit.
Ouais, Amine, le mot de la fin pour toi.
Là, je te demande à voir.
Moi je te le dis.
Ouais, bah, Matuidi, moi aussi, je te demande à voir.
Non, mais écarté, attention, ça veut pas dire qu'il jouera plus du tout. Il peut rentrer, Matuidi, comme Sissoko. Mais je serais surpris qu'avec l'armada qu'on a offensive aujourd'hui et des joueurs de côté qui s'éclatent de plus en plus, qu'on arrive quand même à débuter un Euro avec Matuidi à gauche, un Sissoko pas loin d'être titulaire.
Tu sais, Jérôme, Daniel, il a raison en fin de compte. Quand c'est un adversaire
qui craint,
qui craint, et qui veut gagner à tout prix contre un gros, qui craint la qualité technique, etc., il va toujours revenir à un système de jeu prudent, costaud. Rappelle-toi la finale que vous avez perdue en 2004. Mmh. Il met Édouard Cissé côté droit et il fait jouer comme il faisait souvent. Tu vois, il a mis.
Édouard Cissé, dans beaucoup de gros matchs cette année-là, joue avec Zico et Bernardi.
Oh, d'accord, ok, d'accord.
Mais il le mettait finale, une espèce de faux milieu droit.
Je suis d'accord, mais sur la finale, il n'a pas fait comme d'habitude, Roten, Julie.
Non, c'est vrai, t'as raison.
Et il perd. Et il prend une leçon contre Mourinho. Mmh. Rappelle-toi, Jérôme, tu l'as joué ce match.
Ouais, je sais plus.
Après, il y a eu des circonstances compliquées dans ce match aussi.
Mais en fait, c'est ça finalement. C'est vrai ce souvenir-là. C'est que son truc, c'est toujours je gagne au final, j'ai raison.
Oui. Exactement.
C'est, en fait, il faut pousser jusqu'au bout le truc. Mais avant. Oui, à la Coupe du Monde, tout a tourné merveilleusement bien et c'est allé au bout. Mais avant, qu'est-ce que tu fais pour, si jamais il y a un grain de sable, il va pas y avoir de nouveauté. Il va y avoir de se raccrocher à ses certitudes et à ce qu'il fait de mieux.
C'est
comme
Daniel,
ça. Après, s'il y arrive comme ça à nouveau, c'est pas un problème. Hein.
Mais Daniel, France-Australie, le pire, c'est qu'il gagne.
Ouais. Mais c'est l'Australie, pourtant, c'est faiblard. Hein.
Parce que ça lui a pas plu.
Oui, c'est sûr.
Ça lui a pas plu. Mm-hmm. Il gagne. Là, on est en train de parler d'un match comme si qu'il. Mais il gagne 2-1.
Ouais, mais après, et ça moi, va au bout match-là. Et donc et forcément, c'est.
Ah oui, bon, il n'y a pas que celui-là.
Amine, merci en tout cas pour tes analyses.
Il n'y a pas de souci, la dernière chose.
Sacré mémoire, Amine, bravo. Hein.
Juste avant de partir, Daniel Riolo, je t'aime beaucoup. J'aime beaucoup tes analyses. Rien à dire. Les autres qui te critiquent, moi, je comprends pas. La polémique qu'il y a eu avec Younes Belhanda, c'était médiocre de chez médiocre. Mais comme on a pu ne pas comprendre ce que tu as dit, c'était très clair.
C'est gentil, merci de le dire. Oui.
Non, mais je te le dis. Mm. Voilà, les robots, on pense pas tous la même chose. Voilà.
Mon vieux, je le vois et je le sais, mais absolument voilà. Tous les jours. Il faut tous les gens sur Twitter ne représentent rien du tout, une infime minorité.
Exactement. Voilà.
Donc, mon vieux, t'inquiète pas, y a pas de problème.
Les analyses, elles sont très bonnes. Je pense que tu connais beaucoup mieux le football que la 90% des gens qui critiquent. Et voilà, quoi, c'est tout. Continue, les gars.
Merci beaucoup. Je t'embrasse. À bientôt.
Salut, ami. À bientôt.
Deux, trois petits messages.
Grégou qui nous dit magnifique l'anglais au micro de TF1. Et après le, on prend les matchs les uns après les autres. Il vient de nous inventer. Je prends les rassemblements les uns après les autres.
Ah, c'est énorme, ça.
C'est pas mal.
Ah ouais.
Tiens, eh il est en direct.
Temps, ça se comprend parce qu'il est nouveau.
On va l'écouter.
Oui. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai la chance de marquer un but. Je me suis très bien entendu avec Raphaël, avec Hugo aussi derrière moi. Donc très très content.
Ça rebooste avant d'aller à Barcelone, de rentrer à Barcelone.
Ouais, très content. On va attaquer un mois compliqué avec le retour de la Ligue des Champions. Donc c'est toujours positif de gagner des matchs et de prendre de la confiance.
Merci.
Ah mais écoute, franchement, hein, à l'Euro, j'ai beau dire, je vois un tel favori, machin. Il y a quand même très longtemps que l'équipe de France n'a pas aligné une équipe avec des possibilités aussi fortes. L'anglais Varane en charnière centrale, c'est fort quoi.
Ouais, ça a de la gueule.
L'anglais.
Donc pour vous, c'est réglé, ça change plus.
Je sais pas, on peut toujours changer. Franchement, l'anglais, il est fort, il joue au Barça.
Avec blessure, évidemment.
Mais tu vas voir Lucas Hernandez, qui moi je trouve de plus en plus fort. Bon, ok, il y a petit point d'interrogation à droite, mais bon.
Au milieu,
t'as beaucoup de possibilités, ouais. Et des mecs forts, ouais, je le répète.
Vous voulez écouter le début des champs ou vous en foutez?
Vas-y,
on écoute le début.
On voit le boss.
Si tu es une personne difficile, peut-être. C'est vrai que le score aurait pu être plus large à travers le pénalty, les deux barres transversales, deux, trois arrêts superbes du gardien en face. On aurait pu avoir une meilleure efficacité, mais à côté de ça, on a mis quand même trois buts en ne laissant rien à l'adversaire. Voilà, face à un adversaire qui était encore peut-être plus regroupé que l'Albanie. Donc on a trouvé ce soir aussi les solutions. Sur le premier, on aurait pu en mettre plus aussi, évidemment. Plus on a d'efficacité, mieux c'est. Mais on a quand même marqué 7 buts en 2 matchs. Et chose qui nous arrivait pas si souvent que ça, sur les 2 matchs, c'est 2 joueurs du banc qui rentrent et qui marquent. Ça, c'est plutôt intéressant pour l'avenir à travers Ikoné sur le premier et Wissam Ben Yedder sur le deuxième. Donc on a eu une énorme maîtrise sur tout le match, avec grande qualité dans la circulation. On avait peut-être manqué un petit peu de mouvement en moment, ou un peu plus de précision sur les centres, mais ils sont tellement nombreux dans la surface de réparation que c'est pas évident aussi. Donc voilà, le contrat est rempli sur ces deux matchs, c'est ce qu'on voulait. Et en termes de contenu, il y a beaucoup de positifs, bien évidemment. Après, oui, au nombre d'occasions qu'on a eues sur les deux matchs, c'est vrai qu'on aurait pu marquer plus de buts, mais on en a mis 7 quand même.
Voilà, pour Didier Deschamps, donc il a vu Ikoné marquer, c'était Kingsley Coman, hein, faudra peut-être lui dire.
Non, Ikoné, premier match.
Non, mais il parlait des buts ce soir, là. Quand il parlait
je pense qu'il faisait un peu un...
Non, je pense qu'il a fait un mix des deux.
Bon, d'accord.
Il a dit les deux joueurs qui sont rentrés du banc, Ikoné a marqué contre l'Albanie et Ben Yedder ce soir.
Ben Yedder qui avait le numéro 10. Il l'a piqué à Mbappé.
Ouais.
Ah bah on regarde toujours le numéro 10 de l'équipe de France.
C'est un numéro mythique. On fait toujours attention à qui le porte.
Exactement. Ouais.
Non, mais c'est surtout une façon de montrer à Mbappé que c'est pas son numéro, quoi. Parce qu'il y a plein.
On pourrait ne pas jouer avec le. Ne pas mettre
le 10. Oui, il est blessé. Bah, t'es pas obligé de jouer avec le numéro 10. Hein.
Les maillots, faut bien les donner dans le groupe quand les mecs arrivent.
Mais pourquoi t'es pas obligé de donner un numéro 10
si tu veux.
Ouais, tu peux jouer aujourd'hui, tu peux jouer avec. Alors, même si c'est pas trop le.
Bah, oui, Anelka, je joue bien avec le 39 en hommage au Jura.
Oui, c'est vrai.
Mais pas en équipe de France.
Si, tu peux décaler, tu fais ce que tu veux sur les numéros, Daniel.
Mais vous êtes sûr? En équipe de France. Écoute,
bah moi, je me souviens d'Anelka avec son 39 en équipe de France.
Mais en équipe de France.
Bah ouais. C'est sûr que tu peux jouer.
Là, tu me fais douter.
Mais arrête de me dire, tu peux jouer avec
n'importe. En équipe de France.
Bon, allez.
Toi, t'avais ton 25, toi?
Non, bah non, moi j'étais.
Ah non.
Écoute, si au bout d'un moment, si je m'étais imposé comme je devais, j'aurais pris le numéro 25.
L'idée de l'équipe de France, là.
On va checker ça.
Moi, j'ai joué avec le 11 ou le 14.
On va checker ça.
Voilà. Ah, bizarre quand même. Avec le 39 en équipe de France.
Bah, je sais pas, j'ai ce souvenir-là, mais
non, bon, peut-être que... j'ai un doute là-dessus. Là.
Peut-être que je regarde juste là. Là, après, les numéros qu'on voit là, les numéros des bleus.
Tu es en 23, quoi.
Bah ouais, Ikoné avait le 22, Clément Langlais le 19. Ouais.
Non, mais tu peux aller au-delà. Ce que je veux dire, c'est pas une obligation.
Bon, je connais pas le règlement, hein, on va dire.
De France,
ouais, on va checker. Ça. Allez, on va conclure sur les bleus avec Damien, parce que Damien est énervé.
Mais il doute.
Damien est énervé après une victoire 3-0. Salut Damien.
Bonsoir messieurs.
Pourquoi t'es énervé, Damien?
Il va chouiner, Damien.
Bah oui, je vais chouiner, clairement. Mais moi je trouve ça juste pas normal. Est-ce qu'on peut être satisfait d'avoir battu l'Andorre 3-0 avec ce match-là et ces attitudes-là? Bah non. Moi, des gens qui rigolent, je prends l'occasion d'un Griezmann qui est à 2-0.
Qui rigole après le pénalty raté?
Non, à 2-0, qui tente un petit pied fermé au premier poteau, il rate, il n'y a pas de souci. Ça se marre. Ok, pas de souci. Il y a bonne ambiance sur le terrain, ça se voit. Mais ça sent le mépris. Ça sent le pas bon. Ça sent la vieille équipe de France qu'on n'aime pas. Celle qui se sent supérieure aux autres. Jérôme, j'ai envie de te prendre la partie un tout petit peu. Et Dieu sait que je t'aime beaucoup.
Vas-y.
Je suis supporter du PSG. T'es extrêmement critique avec le PSG tout le temps, toute la saison. Quand le PSG bat Toulouse 4-0, pour toi, c'est jamais satisfaisant. On peut toujours faire plus. Là, ce soir, on a battu l'Andorre. Aujourd'hui, tu prends le meilleur joueur de l'Andorre, il joue pas mieux qu'une deuxième division, quelque part dans un pays comme la Norvège.
C'est vrai.
Et t'arrives à te satisfaire de ça, de gagner 3-0 et de critiquer le PSG qui bat Toulouse 4-0?
Écoute, c'est pas les mêmes attentes.
Bah, les mêmes
c'est
attentes.
Pas les mêmes
à un moment donné, on joue des qualifs de l'Euro, on est obligé de faire le job, on est obligé de faire le boulot, on est obligé aussi de jouer pour le goal average. On joue pas sur une saison, on joue pas sur un 38 matchs, on joue sur 4-5 à domicile où il faut.
Donc toi ton message c'est il doit y avoir un niveau d'exigence en rapport avec la sélection nationale.
Donc,
en fait.
Donc si je vais dans ton sens, si j'écoute les critiques que t'émets sur l'équipe de France ce soir, t'es d'accord avec moi quand j'émets des critiques sur le PSG?
Si tu les
non mais je te pose la question, t'es d'accord avec moi
sur cette équipe de France là, t'es obligé de les avoir.
Mais je suis pas obligé parce que
satisfaire de battre l'Andorre 3-0,
mais non parce que
sourire
les gens qui sont heureux d'avoir battu l'Andorre 3-0, ok, c'est le centième match.
Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont pas se mettre à pleurer quand même. Après, on va leur dire, s'ils dégagent pas de la joie, des sourires, tout ça, on va leur reprocher, oh là là, les mecs, ils s'en foutent, ils viennent en équipe de France, regarde-les, ils font la gueule, et ceci, cela. Ça a été le cas à une certaine période en équipe de France, hein, je te rassure.
Hein, Jérôme, quand t'as joué, que t'as raté des pénaltys, t'as pas le droit.
J'en ai jamais raté.
T'as pas le droit de rester sur un terrain. T'as la haine, tu dois avoir gagner, tu dois avoir la haine de faire
Mais
à 2-0, t'as pas le droit. Contre l'Andorre, t'as pas le droit.
Non, mais je vous avoue que coach Courbis, qui était là à ta place, ça lui a pas plu non plus.
Sur le pénalty?
Ouais.
Mais sur le pénalty.
Attendez, mais quand il sourit après le pénalty raté, on voit bien que c'est un sourire jaune.
Mais quoi, c'est surtout Giroud.
Je te parle pas du pénalty, je te parle de l'après, là, le petit pied fermé là au premier poteau où il rigole. Mais en fait, je parle pas que de Griezmann.
Oui, c'est une attitude générale, mais bon, moi franchement, ça m'a.
Vous exagérez un petit peu.
Ouais, tu cherches un peu la petite bête quand même.
Non, mais attends, je te dis pas que le 3-0 c'est magnifique et tout le monde doit, et on a pas dit ça ici. Hein. C'est bien, ils ont fait le job, ils ont gagné 3-0. Ils auraient dû, par rapport au nombre d'occasions qu'ils ont eu.
Ce serait quoi le tarif minimum contre une équipe comme Andorre ou Albanie, machin.
Oui,
après, en fonction
savoir.
Du classement de l'équipe, tu te fais un barème. Genre, tu dois en mettre 5 parce que c'est machin, tu dois en mettre 3 parce que c'est machin. C'est une équipe qui est très regroupée. C'est deuxième match.
Pour une fois, l'équipe de France doit affronter quelque chose que le PSG. Je vais faire l'association avec le PSG.
Ouais, mais ça peut pas être pareil.
En fait, c'est différent.
Non, mais ça peut pas être pareil parce que l'équipe de France. Et je sais que tu le sais si tu nous écoutes. Je peux être sévère avec les Bleus très très souvent. Maintenant. Le rythme que propose le calendrier fait que ces matchs de l'équipe de France sont toujours casés entre des matchs qui deviennent toujours plus importants avec les clubs, à une semaine de la Ligue des Champions, t'as gagné ton match, la mission elle est remplie, t'as gagné tes deux matchs, t'es dans une course à la qualif, dès ce week-end il faut se projeter sur le championnat, tout devient extrêmement important. Et dans ce extrêmement important, j'ai le sentiment que dans l'équipe nationale, or, quand t'es dans la compète, l'Euro, la Coupe du Monde et tout, tout ce qui est les amicaux ou les qualifs, c'est une affaire de travail à finir, de travail à bien faire, de mission remplie. Il y a moins ce que tu demandes, c'est-à-dire, c'est mon sentiment, peut-être je me trompe complètement, mais il y a peut-être au moins une abnégation totale, tu vois, je sais pas s'ils mènent 3-0, il reste 20 minutes. Est-ce que vraiment ils vont se dépouiller pour aller mettre le 4, le 5? Tu vois, si ça vient sur les occasions, ça vient. Si le gardien fait un bel arrêt, et ce soir, il en a quand même sorti 2-3 des super belles. Bon, ben voilà, tant pis, tu gagnes que 3-0. Bon, est-ce que c'est si terrible que ça? C'est une affaire de contexte général dans un calendrier surchargé. Il faut aussi le prendre
Damien, moi, juste pour finir là-dessus, et je peux comprendre que tu sois pas satisfait de ce 3-0 et de certaines attitudes, mais moi, et que tu aies des doutes sur mon analyse aujourd'hui en disant plus ou moins, tu protèges l'équipe de France et tu fracasses le PSG. Déjà, j'ai pas l'impression de fracasser.
C'est pas ça. Je peux juste pas comprendre comment on peut acquiescer mais ça.
Moi je vais
on
te
est
dire...
champion du monde, on sort de ça et on se doit d'un goal à
moi, je vais te dire...
J'ai essayé de t'expliquer, Damien, mais visiblement, Damien, ça t'a pas du tout convaincu.
Damien,
quoi.
Damien moi je vais te dire, moi quand, okay. Quand j'analyse un match, comme la plupart, ce qu'on fait, c'est que bien sûr que le résultat est important, mais moi je regarde pas que le résultat et surtout pas sur ces matchs-là, parce que je sais qu'au bout, l'équipe de France va gagner, parce que s'il gagne pas, là c'est gravissime. Moi je regarde les attitudes, alors toi tu relèves les sourires, les ceci, les cela. Moi, je regarde l'attitude, le collectif de l'équipe de France et depuis, ça dure depuis des matchs. Et c'est pour ça que je les protège. Du moins, j'émets moins de critiques parce que j'ai l'impression que ce groupe, il vit vraiment bien. Et moi, c'est ma vision du football, le collectif, avant tout, voir comment tu mets en lumière ton coéquipier, comment la qualité de passe vers l'avant, comment tu arrives à offrir un ballon de but à ton attaquant. Voilà, moi, c'est ce que je regarde et je trouve qu'en équipe de France, encore plus sur ces deux matchs, c'est ce que j'ai vu et moi ça me satisfait. Et la comparaison que je fais par rapport au match du PSG, c'est que quand PSG gagne 3-0, 4-0 contre Nîmes ou contre Toulouse, pourquoi j'émets des critiques, c'est sur ce collectif. Parce que quand ils gagnent 3 ou 4-0 contre Toulouse ou Nîmes, c'est souvent des exploits individuels. C'est pas le collectif qui va briller. Voilà, c'est souvent des exploits de Mbappé. Ce qui se passe depuis le début de la saison, c'est exactement ça. Si t'es supporter du PSG, tu le vois. Et ben moi, j'ai envie de voir autre chose du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que j'émets plus de critiques sur le PSG.
Merci Damien en tout cas.
Salut Damien.
Merci messieurs.
Salut Damien. Salut Damien. Rappelle-nous quand tu veux, bien sûr, pour débattre de l'équipe de France et du PSG. Il n'y a pas de souci. Dans quelques instants.
J'ai eu la réponse pour le 39.
Oui, on l'a.
Merci. Match amico.
Donc les matchs amicaux, ils pouvaient. Donc,
pas les matchs officiels. Donc pas là, ce soir, c'est pas poste.
Tu peux pas sur les matchs officiels.
Pas match officiel.
Alors là, c'est que en France, ça.
Match officiel, tu peux pas. Match amico, tu peux.
Moi,
match amico. Pas les matchs officiels.
Quand même dur pour le département du Jura, qui n'est pas représenté en Coupe du Monde.
Voilà, Jérôme.
Dans quelques instants, on est de retour. Vous avez encore un quart d'heure pour jouer. Vous envoyez RMC
la tête, voyons.
Par SMS au 732-16 pour participer à notre grand jeu et gagner ce soir un magnifique cadeau. On a encore des téléphones portables, des ordinateurs, des home cinéma, bref, plein de trucs super pour la rentrée. Ces cadeaux, c'est pour vous. Jouez dès maintenant. Et l'after revient tout de suite.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Jérôme Roten est là également, 23h31, d'ici minuit on va parler de Noël Le Graët, on va parler de l'éventualité d'aller jouer un match en Algérie, on va parler des propos homophobes et on va vous donner des nouvelles aussi de Florian Thauvin dans quelques minutes parce qu'il y a des rumeurs qui circulent le concernant. Mais pour l'instant on va se concentrer, rumeurs de blessure, hein, pour l'instant on va se concentrer sur les autres matchs. Nicolas Villas est avec nous les gars, salut Nico.
Oh,
il s'est régalé hein.
Ça va Nico ?
Ouais, bah non, je me suis pas tant regardé que ça les mecs.
Attends, déjà, première chose, l'after te manque pas trop ?
Non, vrai, je sais pas, est-ce que je vous manque ? Non, la vraie question c'est est-ce que je vous manque ?
Il a son émission à lui tout seul, maintenant et tout, c'est une vedette.
Hein, j'ai un peu regardé cette émission, tu sais que c'est pas mal. Hein.
Mais toi, c'est le Jimmy Fallon français.
Ah oui, c'est ça. Bravo mon gars.
Jimmy Fallon, ouais. Oui, si, bien sûr que si, vous manquez. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là ce soir. Ouais, il n'y a pas d'émission ce soir, mais je peux pas m'en empêcher. Tu vois.
Quadruplé de Cristiano, comment c'est possible qu'on t'appelle pas?
Ouais, alors, enfin, figurez-vous, les gars, alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, il n'a pas fait un match fou, Ronaldo, au final. C'est-à-dire que, déjà, que je te fasse le scénar, pour le Portugal largement au-dessus, je regardais les stats de la Lituanie avant le match. Les mecs, sur les 12 derniers matchs en jeu, les 11 derniers matchs en jeu, ils ont fait deux matchs nuls, que des défaites. Donc, ils sont complètement à la rue. Un partout à la pause. Alors match sur synthétique. Santos, le sélectionneur, disait avant le match, on va pas chercher d'excuses. Mais tu sens que les mecs, c'était pas vraiment le revêtement qui fait le plus auquel ils étaient vraiment habitués.
Oui, synthétique.
Et Ronaldo, là. Ouais, synthétique, vraiment à l'ancienne. En plus avec les boules noires, là, les trucs pourris, là, en mode urban là. et première période Ronaldo. Alors il claque un péno que Joao Félix obtient. Il fait pas une grosse première période. Il foire beaucoup de trucs. Alors il fait souvent les bons appels, mais c'est jamais, le ballon vient jamais au bon moment. Enfin, il y a, voilà, et comme dirait Jean-Michel, il partait dans le zig, le ballon allait dans le zag. Donc, ça le faisait pas. Et alors, deuxième période, il y a un but, faut que vous le voyez, les mecs, si vous l'avez pas vu. Le deuxième but qu'encaisse la Lituanie, le pauvre portier lituanien, là, cette course, il fait vraiment un bon match. Il fait une cagade sur le deuxième but, mais c'est un sketch, le bordel. Ronaldo, il frappe des deux pieds, il se casse la gueule sur le synthétique. L'autre, il va pour l'arrêter. Il rebondit sur la tête, il rentre, il revient. Enfin, c'est un sketch total. Et au final, il met son quadruplé. Là où c'est très fort pour Ronaldo, c'est qu'il avait marqué un but face à la Serbie. Le Portugal avait gagné 4-2 face à la Serbie. Je vais vous donner un chiffre. Il en a 93 buts en équipe nationale, Cristiano Ronaldo. Quand je regardais tout à l'heure à titre de comparaison, il a plus marqué, Ronaldo, que Thierry Henry et Platini, les deux meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France.
Moi, je me souviens de l'époque où Paoletta était le meilleur buteur de la sélection portugaise.
Mais c'est pas si vieux que ça en plus. Hein. Ce temps-là est pas si vieux que ça.
Quel est le recordman du monde de buts en sélection d'ailleurs, tiens. Voilà une bonne question.
C'est Ali Daei avec 109 buts. Et le deuxième, c'est Ronaldo.
109 buts, l'Iranien Daei.
Voilà.
Et le deuxième,
109. C'est Ronaldo justement.
Ouais. Ah, mais il peut pas être Daei, hein. Tranquille.
Alors, il en a encore un petit peu, mais.
Ali Daei, il en a mis 109. Ah, mais l'Iran, il devait jouer contre un paquet
d'équipes. Après, quand il jouait contre les Philippines et qu'il gagnait 5-0.
Ah, ouais, bah ouais, c'est ça.
Bon, cela dit, le Portugal, il joue aussi contre Gibraltar et compagnie. Hein.
Oui, bon, oui, non, mais c'est sûr, mais bon.
Bon, donc, à part Ronaldo, un autre truc dans ce match à retenir
Alors, il y a.
Jean-Félix, il était bon, Jean-Félix?
C'est pas mal. Alors, il n'était pas titulaire lors du match d'avant face à la Serbie. Il avait Guedes qui avait marqué. Là, ce coup-ci de la Libye. Il est intéressant. Tu sens qu'il cherche beaucoup Ronaldo. D'ailleurs, ça a été le gros problème en première période. C'est. Ils ont une vraie obsession autour de lui, Ronaldo. On rappelle quand même qu'il avait été absent, Ronaldo, hein, lors du début d'année, notamment les qualifs pour la Ligue des Nations, le début de la Ligue des Nations. Il n'était pas là, Ronaldo. Il est arrivé en cours de route. Il est venu pour la phase finale, notamment. Il y a un mec, par contre, qui est vraiment en train de s'imposer en équipe nationale comme un leader technique. C'est Bernardo Silva. Il a fait deux passes D contre la Serbie. Il a fait deux passes D. Il est, enfin,
mais au-delà de ça, lui c'est un super joueur. Lui, c'est normal qu'il s'impose.
Mais lui, il est fantastique.
Quand même.
Il est fantastique. Vraiment, vraiment.
Bernard Silva, et... il est énorme.
Ah ouais, ouais. Il est avec le meilleur entraîneur du monde.
En revanche, le bémol, oui. c'est la défense, parce qu'ils en prennent deux en Serbie. Là, ils en prennent un, bon, sur coup de pied arrêté, encore une fois. Santos était déjà vénère après le match contre la Serbie à cause des coups de pied arrêtés. Il y a un vrai problème, surtout d'animation dans les couloirs. C'est-à-dire que le système, c'est pas vraiment un 4-4-2, c'est pas vraiment un 4-3-3. Santos, il manipule un peu les deux systèmes, les joueurs permutent beaucoup. Mais dans les couloirs, alors il a beaucoup changé pourtant sur les deux matchs. À part Guerrero, il a tenté Semedo contre la Serbie. Là, c'était Cancelo. Mais il y a un vrai problème d'animation défensive. Et là, je suis en train de regarder la télé portugaise, la télé de la Fédé. Ils ont pris des grands consultants. Et là, ils sont en train de faire un gros débat qui est très intéressant sur la position de William Carvalho, qui est parti au Betis là, il y a deux ans. Et Tamanich, alors il joue en sélection, et même avec le Betis d'ailleurs, lui qui est plutôt un 6, il joue plutôt 8 maintenant. Et t'as des mecs, alors Manich dit par exemple, pour moi c'est pas du tout un 8, je le vois pas comme ça, il a pas les caractéristiques. Et t'as d'autres mecs, genre Tony qui avait entraîné le Benfica et Bordeaux aussi il y a une vingtaine d'années, dit bah pour moi c'en est un. Il y a un vrai débat autour de ça au Portugal, autour du jeu justement, parce qu'on parle beaucoup de jeu autour de la sélection, et notamment autour du positionnement de William Carvalho. Et c'est vrai que Ruben Fernandes, qui est resté au Sporting, on pensait qu'il allait signer dans un gros club. Il est resté au Sporting. En équipe nationale, il n'arrive pas vraiment pas à s'imposer et à convaincre. Et du coup, il y a beaucoup de débats autour de William, qui est censé porter le jeu un peu malgré lui, finalement.
Nico, merci beaucoup. C'était sympa de t'avoir là pour ce petit débrief.
Non, merci à vous les mecs. À bientôt.
Salut Nico. Et on te retrouve dès demain soir dans Footissime, en même temps que l'after. Donc
22h40.
Voilà. Il n'y a pas une rediff dans la nuit, comme ça les gens peuvent vous regarder l'after.
Bah, regarder après. Écoute, juste après l'after, à minuit, c'est rediffusé. Voilà.
Et bah voilà, magnifique ça. Voilà.
C'est mon pote. Oui.
Et voilà. Salut Nico.
Bisous les gars, merci.
Salut Nico.
Bonne soirée.
Ciao.
Tiens, Angleterre-Kosovo, on va voir Julien Laurence avec nous dans quelques instants, mais je vais vous faire écouter un truc. Vous vous souvenez de Bernard Chalande ?
Non.
C'est un Suisse qui était sélectionneur à l'époque de l'Arménie, quand la France avait rencontré l'Arménie. Mmh. C'est un mec qui est assez cash, quoi, qui n'a pas trop sa langue dans sa poche et tout. Et là, conférence de presse d'avant-match, il explique, voilà, moi, mes joueurs du Kosovo, je veux qu'ils fassent le pressing. Et il explique en anglais, et il l'explique d'une façon, on va dire... À lui. On va écouter ça. C'était avant le match. Hein. Au final, ils ont pris 5-3, mais en faisant un pressing de dingue, ils ont marqué dès la première minute.
5-3 contre l'Angleterre, c'est un sacré score quand même. Quoi.
Écoutez Chalande qui parle du pressing en anglais.
It's a tactical pressing. In a crazy game, it's go, return, go, 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 go. It's not tactic. Perhaps it's not right. The right run. But it's only here. I want to win the ball. I want to disturb Sushi. And perhaps he lose the ball and we score.
Ah, ouf. Chaud, hein, les joueurs, ils doivent les malmener. Hein.
Go, go, go!
À mon avis, il doit en attacher certains qui font pas ce qu'il dit. Oui.
Et ben, ça a marché. Ils ont ouvert le score.
En otage, dans des caves.
Ils ont ouvert. Non, mais c'est génial quand même ce truc.
Ah ouais.
Bon, tiens, alors, on aura Julien Laurence avec nous dans quelques minutes. Donc là, on n'arrive pas trop à le joindre. Donc je peux peut-être parce que c'était pas à Londres hein, le match aujourd'hui. C'était à Southampton, donc le temps peut-être qu'il retrouve son téléphone. On va le joindre, en tout cas l'Angleterre a gagné 5-3. Ça me permet de vous raconter l'aventure à venir de l'équipe de France en Algérie. Pourquoi ? Alors en fait, c'est ce matin Noël Le Graët qui a expliqué ça sur France Info. Il veut absolument que l'équipe de France aille jouer en Algérie. Alors, jouer en Algérie, évidemment, c'est pas... anodin sur un plan hors football. La France n'a jamais joué en Algérie depuis l'indépendance. Voilà, on se rappelle du match au Stade de France qui s'était mal terminé avec l'envahissement de terrain il y a quelques années, rappelez-vous. Donc Le Graët dit, voilà, on est prêt à y aller, d'autant que l'Algérie nous a d'ores et déjà invités. Et que il y a un nouveau stade en fait en construction à Oran, ouais. Donc qui sera inauguré dans un an. Donc ce serait pour l'inauguration de ce stade en octobre 2020. Mmh. Le Graët explique voilà, l'idée c'est d'envoyer les espoirs peut-être au printemps là pour un premier match en Algérie histoire de voilà de prendre nos marques là-bas avec la fédé algérienne et tout. L'Élysée s'est exprimé sur le dossier en disant ben nous l'Élysée c'est pas nous qui choisissons les matchs hein, ça c'est la fédé mais enfin nous on serait très heureux que l'équipe de France aille en Algérie donc il y a un soutien politique là et bon champion du monde contre champion d'Afrique au fond sportivement ça a plutôt du sens historiquement politiquement ce serait quelque chose de symboliquement important. Voilà, il y a eu beaucoup d'appels au 32-16 toute la soirée là de supporters franco-algériens qui disent on attend ça avec impatience, ce serait top.
Je vois pas pourquoi voilà. Ce serait pas bien, je vois pas pourquoi ce serait pas un bon moment.
Surtout qu'il y a jamais eu.
Je sais plus qui a dit aujourd'hui que c'est beaucoup mieux si ça se passe là-bas qu'en France. Ça oui. Ça je veux
dire faire un rematch France-Algérie au Stade de France.
Ça je le pense parce qu'en France évidemment il y aura des abrutis. Évidemment, ça se passera pas comme il faut et il pourrait y avoir des incidents. Mais en Algérie, ça, je suis sûr que ça se passera bien et qu'il y aura aucun problème parce que je ne vois même pas pourquoi il y en aurait. Je suis sûr que l'équipe de France a parfaitement reçu.
Il faudra quand même qu'il y ait des conditions de sécurité très drastiques parce que oui, dans le championnat algérien,
oui, ça y est,
il y a des problèmes tous les week-ends.
Ça c'est vrai.
Et c'est vrai. N'importe nawak.
Ça c'est vrai. Mais il n'y a pas de raison que, en tout cas, tu sois mal reçu, alors que l'équipe de France jouant en France contre l'Algérie, pour la seule fois où ça s'est passé, l'équipe de France avait été très mal reçue, même au-delà de ça même. Mais là-bas, il n'y aura aucun problème. Enfin, je veux croire qu'il n'y en aura aucun.
Attends, j'ai pas compris. Qui avait été mal reçu?
L'équipe de France.
Où ça?
Au Stade de France.
Ah oui, d'accord. Oui, là, je comprenais pas. Oui, par le public.
Ah bah oui.
Tu sais, il y a eu un France-Maroc quelques années après. Hein, je l'ai fait. C'est à peu près la même chose. On avait joué dans un contexte
quand même,
particulier.
Quand même beaucoup moins grave que le soir de France-Algérie. Mais tu
moins. Fais bien, c'était pas terminé en envahissement de terrain.
Celui-là, je l'avais oublié.
Moins grave parce qu'il n'y a pas eu envahissement de terrain, les chants, tout ce qui s'est passé pendant le match, avant le match, après le match. Oui, c'est ça te donne pas envie de refaire ce genre de match, du moins dans ces conditions-là. Donc en effet, là je rejoins Daniel, déjà parce que ça s'est jamais fait, un Algérie-France dans un nouveau stade, l'inauguration, ça tombe à point nommé, donc tant mieux, s'ils y arrivent, tant mieux que ça se fasse, au contraire.
Et puis, ils n'y arrivent pas,
et là ça a de la gueule, c'est champion d'Afrique contre le champion du monde.
Exactement. Dans quelques instants, on va revenir sur l'autre polémique du jour. Passe d'armes, Le Gret, Maracine et Anou, Macron, concernant les chants homophobes dans les stades et les matchs arrêtés. Mais d'abord, le gagnant de notre jeu, c'est Bertrand ce soir qui a été tiré au sort. Salut Bertrand.
Salut.
Bertrand, je t'annonce que pour la rentrée, tu gagnes des AirPods.
Eh ben, c'est super. Voilà. Je vous remercie.
C'est de rien. Cadeau de l'after.
C'est génial.
Bravo à toi.
Je vous remercie.
Eh ben, bravo Bertrand.
Et allez les verts.
Allez les verts en passant.
Je viens bientôt vous voir.
Ah bon?
Bah oui, je vais aller.
Ah oui, l'Europa League.
Je vais commenter le deuxième match contre Wolfsburg.
Ah, faut prévoir l'arrivée de Jérôme.
Les verts.
On va s'y claquer. Allez.
Salut Bertrand. Bonne soirée.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Bonsoir. Au revoir.
Au revoir, prochain jeu demain soir dans l'After, bien sûr. Et puis tiens, n'oubliez pas les podcasts, hein. On m'a posé la question encore aujourd'hui. Oui, ils sont en ligne, les nouveaux podcasts de cette semaine, Paris, Marseille, Saint-Etienne, Lyon, avec un excellent Jonathan Macardy sur l'OM, par exemple. Voilà, je vous les conseille, ils sont sur toutes les plateformes, mais sur...
Les autres sont idéaux.
C'est celui qui m'est venu. Il y a aussi Manu Petit.
À mon avis...
Sur Paris, sur le PSG, Manu Petit.
Oui, ouais. D'accord.
Il est bon, Manu.
Très bien.
Il travaille et tout, j'aime beaucoup Manu. Bonjour. Il devrait venir plus souvent.
Il travaille.
Manu, gros bosseur.
Ah, il s'y est mis, ça y est.
Non, arrête.
C'est bien.
Manu, c'est un gros bosseur. Il regarde tous les matchs, il est au courant. Il est capable de sortir les bancs des clubs de Ligue 1 et tout. Non, gros bosseur. Ouais. Dans quelques instants, Le Gret, Maracine et Anou Macron au programme. Bougez pas, l'after revient tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Gilbert Bribois.
Jean Brantaine est là, Daniel Riolo est là. Avant de parler de notre triplette Le Gret, Paracine et Anou Macron, d'abord une petite déclate Didier Deschamps. Il vient de dire « Je garde ma confiance à Griezmann pour les pénaux. »
Ça me paraît logique.
Voilà, donc je voulais vous donner cette information.
On l'avait dit, ça n'a pas besoin de revenir là-dessus.
T'avais pas dit que Deschamps l'avait dit. Il l'avait pas encore dit.
On savait qu'il l'avait
dit. C'est moi qui l'ai dit.
Il dirait que je parlais le Deschamps par cœur.
Ben voilà.
Alors, dossier du jour concernant les arrêts de match liés aux chants homophobes dans les stades. Ce matin, Noël Le Graët, président de la Fédération, s'exprime. C'était sur France Info. Écoutez ce qu'il dit. Assez étonnant comme déclaration. On écoute.
Oh non. Je veux pas être pris en otage sur l'homophobie. C'est pas vrai. Il y a pas d'omerta. Il y a une volonté farouche de faire en sorte, effectivement, qu'on puisse être sur un stade de façon très digne et tout à fait amicale et en famille. Mais l'arrêt des matchs ne m'intéresse pas.
Voilà. Pour conclure, il dit, moi, j'arrêterai un match pour des cris racistes, pour une bagarre, pour des incidents. Et s'il y a un danger dans les tribunes, dit-il. Donc, sous-entendu, je ne l'arrêterai pas pour des chants homophobes. Voilà ce que dit Le Graët ce matin. Là, le son, là, il a été coupé un peu trop vite. Il n'y avait pas la suite. Derrière cette déclaration, je dis étonnant de Daniel parce que il aurait pu aller dans le sens, en gros, de ce que demande la FIFA, parce que c'est une directive de la FIFA. Lui, il reçoit les directives de la FIFA à la Fédération française de foot.
C'est monsieur rien à branler.
Voilà. Réaction de Roxana Maracine, à nous, ministre des Sports, un petit peu plus tard dans la journée, moyennement contente.
Pour nous, il n'y a pas de hiérarchie dans les discriminations, pour personne dans cette société. L'homophobie, au même titre que le racisme, est punie par la loi. Il y a des sanctions pénales qui peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Donc effectivement, la position qu'a pris Noël Le Graët en faisant la différenciation entre homophobie et racisme, elle est erronée, on peut le dire.
Donc voilà ce que dit Roxana Maracineanu aujourd'hui. Alors, je rappelle que les rapports entre Maracineanu et Le Graët sont un peu compliqués. Il y a quelques mois de cela, Le Graët avait gentiment expliqué à Roxana Maracineanu qu'elle retourne dans sa piscine, rappelez-vous, à propos d'une autre affaire. Ils étaient côte à côte au stade ce soir.
Ouais, ils ont bu une...
ça reste cordial.
Ils ont bu une coupe de champagne.
Et ce soir, c'est Emmanuel Macron qui s'est mêlé au débat et qui, en gros, s'est mis un peu entre les deux, en fait, finalement. Écoutez.
La ministre est dans son rôle. Il faut maintenant que la Ligue, les clubs prennent leurs responsabilités, parlent à leurs supporters. Il ne faut pas édicter une règle fixe. On ne va pas se mettre à mettre des règles qui seraient comme des lois qui tombent. Sinon, je ne sais pas si vous êtes supporter de foot. Moi, je sais en tout cas comment j'organiserai les choses. Je ferai des insultes à 5 minutes de la fin d'un match que je suis en train de perdre. Bon, il faut être intraitable sur le fond. Il faut que les discours de haine, qu'ils soient racistes ou homophobes, cessent. C'est à la Ligue et au club de le faire avec leurs associations de supporters. Et voilà, progressivement, qu'on améliore les choses.
Bah ça, c'est la position que j'ai défendue tout à l'heure dans Team Duga. Noël Le Graët, il a complètement perdu les pédales. Parce que ce qu'il dit, c'est juste inadmissible. Lui, il l'a dit, j'imagine, parce qu'il a senti que dans le foot, le vent allait dans ce sens-là. Et
sans doute parce qu'il a aussi des retours des présidents de clubs qui commencent à mettre la pression, notamment Jean-Michel Aulas.
Voilà.
Il dit aujourd'hui, Aulas, faut quand même manier ça avec modération.
Gros, et des joueurs.
La famille du foot, celle qui fait croûter Le Graët, va plutôt dans ce sens-là. Donc lui, il est allé dans ce sens-là. Sauf que, tu l'as dit, c'est une directive de la FIFA. La Fédération française de foot est membre de la FIFA et cette recommandation, elle doit être suivie et tu ne peux pas y déroger. La FFF est une délégation de service public avec un ministre de tutelle. On peut en penser ce qu'on veut, mais il n'empêche que c'est elle, la ministre des Sports. Je ne crois pas avoir été souvent d'accord avec elle et je ne suis pas sûr de l'être encore aujourd'hui d'ailleurs sur ce point-là. Moi, ce joli bordel, je l'avais anticipé. J'en parle depuis depuis un mois précisément. Et tout le monde croit qu'en fait, je suis rangé derrière là où les deux ministres. Mais absolument pas. Ce que je mets en avant depuis un mois, c'est le joyeux bordel dans lequel on est au sujet de ce genre de grandes décisions. Et que ce monde-là a été créé par les réseaux sociaux et pas par les politiques. Mais ça, personne n'a envie de comprendre ce que je veux dire à ce sujet-là. Bref, en tout cas, Le Graët, lui, en tout cas, sûrement ce qu'il a fait, c'est une distinction et une hiérarchie entre les discriminations. Moi, je...
Oui, on va pas...
Je trouve que c'est... Il est complètement à côté de la plaque dans ce qu'il a dit aujourd'hui. Quand il dit il n'y a pas d'homophobie dans le foot, bah oui, mais d'accord, très bien. Oui, c'est quatre abrutis dans un stade. Oui, bah le racisme aussi, c'est quatre abrutis.
Non, mais ça c'est
donc, le combat
d'aujourd'hui.
Il n'y a pas de racisme donc, non plus dans le foot.
Non, mais on est
98% des gens qui vont au foot, qui jouent au foot, qui sont dans l'univers du foot, ne sont pas racistes. C'est une minorité. Donc, on peut dire exactement la même chose. Et on va même reprendre le communiqué des ultras de l'Inter débile l'autre jour dans ce cas-là. Non, on fait ça pour déstabiliser. Et ben, les mecs, ils feront PD pour déstabiliser. C'est stupide ce qu'il dit.
Dernière petite histoire.
Et je vous dis que l'histoire, elle n'est pas finie parce que derrière, il y en aura d'autres des discriminations.
On peut en parler demain. Demain, on sera là à 21h.
Et Macron, il a raison. Il suffit que les présidents aient le courage d'aller aux assos et dire ça va, les gars, arrêtez, stop. Ça et c'est tout. Il y a autre chose
surtout
à faire.
Les assos, comme on l'a vu l'autre fois avec les Bordelais.
Demain, il y a une grosse réunion à la Ligue.
On en parlera demain soir.
Demain, il y a une grosse réunion et qui parlera également des déplacements de supporters.
Non, mais ça
peut être le moment de faire un grand ménage et de mettre beaucoup de choses à plat.
Demain soir, ce sera au programme.
C'est très positif.
Mais de toute façon, ça c'est le discours aujourd'hui, c'est le discours, tu disais, des présidents de club, mais surtout des joueurs. Moi j'ai eu plein de retours de joueurs. Ils disent il faut trouver une solution parce que arrêter les matchs comme ça, c'est pas
oui,
une...
eux ils voient le préjudice sportif.
Et non mais plus. C'est vrai que
ce sera sans fin, tu peux imaginer tout, les supporters ils vont inventer comme des interruptions non, comme a dit Macron à 5 minutes de la fin, vas-y on fait interrompre le match parce que ça casse le rythme.
Ouais, 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 et puis
si t'es en train de dominer, t'es sous pression,
tu mets 1-0.
Vas-y, on fait ça comme ça, ça va casser le rythme.
On l'a vu sur le dernier match à Nice.
Mais c'est évidemment, on le sait que c'est pas une solution.
Messieurs, je vous dis à demain. Demain soir, l'after sera là à 21h. Je rappelle que les Bleus ont battu Andorre ce soir 3-0. Demain, 3h d'after avec vous tous, bien sûr. Bonne nuit à tous et à demain.
Bonne nuit.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.